All right, bonjour les garçons.
Bonjour tout le monde.
Dernier show, by the way.
Dernier de... Ça finit big, là, je veux dire. On a le king. We got the king in the house.
Yep.
Petite émotion, les amis, pour le dernier épisode, ça va?
Oui, non, ouais, ça va. Ça va.
Je trouve que vous ne pleurez pas beaucoup.
Ben, j'avais avec vous autres. Là,
je misais beaucoup là-dessus, moi, les larmes que, question pour la créée. Dernière, je ne sais pas, un buzz, ouais, que les gens pleurent, puis tout ça.
Human interest moment. Non.
Mais oui, c'est ça.
J'ai tout versé mes larmes quand Canadien n'a pas fait les séries. Je sèche.
Ouais. Ah ouais, je comprends.
Les gens pleurent déjà à la maison. Si on pleurait ici aussi en même temps, ça serait trop.
Ouais, c'est comme dire monter en haut, là, ou dire en forme d'arbre. C'est émotionnel.
Ben, ça a été un plaisir, en tout cas.
Absolument.
Première saison, quand même.
Savez-vous si c'est un succès?
Savez-vous si on revient, vous autres?
Non, on pourrait demander à producteur Ben.
Le grand boss.
Pas sûr que c'est une question à poser présentement, là, parce que... J'ai demandé à Benoît tantôt, ça revient-tu l'année prochaine, ça?
Il nous écoute même pas là en ce moment. Il est en train de prendre une bière.
Il est sous.
Ça l'intéresse même pas.
Il a commencé son rap party.
C'est d'une tristesse pathétique.
Ah, il est debout dans la machine à popcorn comme s'il avait plus le lendemain. C'est incroyable.
Mais c'est vrai que ce soir, ça va être un bel épisode. Là, je dis ce soir parce que les gens qui nous écoutent, ils nous écoutent peut-être le matin, l'après-midi, mais le show s'appelle Sport. Merci, bonsoir.
Ah ouais, c'est...
Fait que, mais bref, toujours est-il que... ben écoutez, on peut commencer ça. On est présentement en Facebook Live. C'est ça? On est-tu en Facebook Live?
Wow. Yes!
J'en reviens même pas moi-même qu'on soit capable de faire ça. Alors, merci tout le monde.
Vous avez stationné votre calèche dans le stationnement, M. Paquet?
Oui, oui, oui. La carriole. Moi, j'appelle ça une carriole.
Carriole.
Moi, j'appelle ça un buggy, en fait. Le vrai nom, c'est un buggy. Allez, part la musique, Éric Guérin, là. Mesdames, messieurs, mon nom est Laurent Paquin. Ici, le cœur rempli de sel, de crème solaire, de chlore, que je vous souhaite la bienvenue au 15e et dernier épisode de la saison de Sport. Merci, bonsoir. Aujourd'hui, vous entendrez les voix de Stanley Hilaire, Diane Lefrançois, Stéphane Plante, Alexandre Dubois et nous recevrons la visite de M. Michael Kingsbury. Le vrai, là, by the way, parce que des fois, on fait des petites jokes, on fait des parodies de personnages, mais là, on a le vrai. Puis, qu'est-ce que tu veux, le thème d'aujourd'hui, c'est le roi de la montagne. Parce que, bon, évidemment, c'est un clin d'œil à Michael, le roi de la montagne, mais il faut quand même préciser que le roi de la montagne, c'est un jeu. Je sais pas, qui jouait à ça? Jeu, hein?
Petite école, en 74.
C'est ça. Le but, c'était de garder le top de la montagne. Donc, c'était comme un combat à finir entre les fraîchiers d'un bord et les gentils de l'autre bord. Généralement, les gentils, c'est l'équipe dont on faisait partie.
Oui. Mm-hmm.
Les fraîchiers, c'était l'autre équipe.
Il n'y a aucun fraîchier ici.
Non, personne. Mais moi, je voulais, écoute, en lien avec le thème d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une passion que j'ai. Moi, là, j'ai réalisé ça, je peux passer des soirées complètes à regarder des vidéos sur YouTube, tu sais, dans le genre Fighters versus Karma. Pour moi, là, ça, là, ça se boit comme du petit vin frais sur une terrasse quand il fait beau, pas trop chaud, le verre est suintant, puis tu le bois avec cette impression que les dieux ont décidé de te récompenser d'être une aussi bonne personne en te donnant accès au nectar qui leur est réservé en temps normal. En gros, ça, les combattants MMA, ça c'est ça, le Karma versus Fighter, c'est des combattants MMA ou des boxeurs qui ont une attitude de marde et qui se font ramasser. Je sais pas pourquoi ça vient autant me chercher, mais il y en a un, ça, c'est de toute beauté. Il y en a un, il faisait des moves de danse dans l'octogone. Tu voyais qu'il n'y avait aucun respect pour son adversaire. Le gars a probablement jamais douté de sa victoire. Puis à un moment donné, il fait comme un genre de move, de breakdance, et l'autre, il envoie un coup de pied sur le côté de la face. Écoute,
hey,
si tous les vidéoclips de breakdance finissaient de même, peut-être que j'aimerais le breakdance. Souvent, c'est un gars qui sourit dans la vidéo, puis tu le vois, il parle à son adversaire. Évidemment, on n'entend pas ce qu'il dit, mais tu sais, on se doute que ça doit ressembler à « Ah ouais, yes-ti? Ah ouais, yes-ti? Ah ouais, fesse, fesse, ah ouais, fesse? » Et l'autre fait « OK! » Et là, c'est formidable, parce que tu peux voir l'instant précis où la lumière s'est éteinte dans le visage du gars qui reçoit le coup de poing. Gars ou fille, là, by the way, hein, pas de sexisme. Moi, Ronda Rousey, qui refuse de donner la main à son adversaire en début de combat, ça y est, je veux qu'elle perde. Puis ce qui est le fun, c'est que plus le gars ou la fille est arrogant, plus c'est jouissif. Parce que le vidéo s'appelle « Fighters versus Karma ». Fait que tu le sais que le gars va se faire décoller le partiel. Lui, il le sait pas. Parce qu'il a pas vu le titre du vidéo encore. Toi, oui. Fait que tu passes pas le combat à l'haïr puis à être en maudit. Puis là, à la fin, t'es content parce qu'il perd. Non! Là, t'es content dès le début du vidéo. Tu le sais comment ça va finir. Fait que toi, tu regardes le gars faire son fraîchier puis tu souris en te disant « Ah! Toi, là! » Toi, tu dis que toi, tu peux sourire parce que lui, tu le sais que dans 30 secondes, il ne pourra plus physiquement jusqu'au moment où il reçoit son tomahawk dans la fossette. Ah! La seule critique que je ferais, ça manque de super ralenti. Tu sais, c'est le fun, le saut en ski avec le super ralenti, mais un gars qui tombe au ralenti pendant que sa mâchoire fait encore des allers-retours gauche-droite, ça aussi, ça vaut la peine. Je pense que c'est un vieux réflexe humain, ça, de se réjouir de la chute de celui qui se pense le roi de la montagne. Hein? Si tu gagnes, sois fier, pas fraîchier. Au moment où on enregistre le podcast, le Lightning a battu les Maple Leafs. Hein? Ouais. J'ai jamais aimé les Maple Leafs, mais comme j'haïs Kucherov encore plus que les Maple Leafs, j'espérais que les Maple Leafs gagnent. En fait, c'est pas vrai. J'espérais que le Lightning perde. En fait, c'est pas vrai. J'espérais que Kucherov perde. Puis pour la prochaine série, non seulement j'espère qu'il va perdre, mais j'espère qu'en retournant sur le banc, il va piler sur le gant d'un autre joueur, puis que sa patte va lever dans les airs comme dans un cartoon, que ses bras vont faire des hélices, puis qu'il va faire « oh, 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 oh » avant d'aller se péter à la face dans la bande, que ça devienne viral, qu'on fasse des mèmes avec ça, puis des vidéos avec des effets sonores de drôles de vidéos dans le genre de « bon, gnong, 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 gnong. Je veux que Bruno Landry reprenne le contrat. »
Oui.
Juste le temps de commenter le vidéo. Oh, 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 Nikita s'est cassé le cou, Kucherov. Se réjouir du malheur des autres. Quel plaisir extraordinaire. Les Allemands ont un mot pour ça, d'ailleurs. Schadenfreude.
Schadenfreude,
que je traduis bien librement par « Qu'aime en esti ». Merci, bonsoir.
Tu viens de me créer un besoin, Laurent.
On s'en doute, évidemment. Oui, c'est formidable, ces vidéos-là, parce que moi, j'aime pas le sport de combat en général. J'haïs bien, bien ça. De voir du monde se taper sa gueule, j'ai de la misère. Mais quand tu connais l'issue, tu sais déjà d'avance que le gars va se faire ramasser. Moi, ça me fait beaucoup rire. J'ai pris des libertés sur le thème « Le roi de la montagne » pour mon petit commentaire d'ouverture, mais évidemment, on s'en doute bien que le roi de la montagne, aujourd'hui, c'est Michael Kingsbury qui est avec nous, mesdames, messieurs. Ou comme on dit en québécois, Michael Kingsbury.
Ouais.
Ça, c'est drôle parce que c'est ce que tu nous disais avant qu'on enregistre. Tu disais que les Québécois t'appellent Michael.
Ouais, la plupart des Québécois. C'est quand même drôle. Comme je suis 100% Québécois. Oui, j'ai un nom de famille anglophone, mais c'est drôle. Aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Australie, je me fais appeler Michael partout. Mais au Québec, je me fais appeler Michael. Tu sais, ça marche pas.
Moi, je vais t'appeler Mike.
Mike, c'est bon. Ça marche. Ouais.
Michael, je pense que je suis un petit
peu. Tu peux m'appeler juste Mick.
Mick? Ah, j'aime ça, Mick. Mick. Ça sonne plus québécois, effectivement. Ouais. Mick. Mais je vais quand même t'appeler Michael.
Parfait.
Déjà que je te tutoie, je me déteste personnellement. Alors, mais là, on est, il fait beau, là. Il fait beau. C'est quoi la vie de Michael Kingsbury quand il fait 30 degrés à l'ombre?
Ben, pour être honnête, hier, j'étais allé skier.
Pour vrai?
31 degrés, Saint-Sauveur, c'était magique.
Ça devait être écœurant.
Crème solaire, j'avais un petit jersey de basket, tu sais, en camisole. C'est vraiment unique d'avoir la chance de faire ça. Mais là, je suis comme dans mes vacances, fait que je me repose.
Toi, quand tu fais pas du ski, tu skis.
Ouais, c'est ça. Avec mes amis, ma famille. Mais là, tu sais, ça a été un hiver assez spécial, tu sais, avec la COVID, les Jeux olympiques, tout ça. Fait que j'ai été beaucoup isolé pour être sûr de ne pas tester positif. Ouais. Parce que nous, au mois de janvier, on est arrivé à un moment où que si je testais positif, j'allais pas au jeu. Fait que j'ai été beaucoup isolé. Fait que là, tu sais, sans dire que je rattrape le temps, mais j'essaie de profiter, que, voir la famille, les amis, puis...
T'arrives à avoir du plaisir à skier, même quand c'est juste pour le fun, avec des amis?
Ouais, ben c'est sûr que skier normal après 2-3 descentes, je suis tanné. mais j'aime ça quand il y a un petit peu plus de d'enjeu. Il faut que ma tête passe à l'envers au moins une fois quand je vais skier. Il faut que je prenne des risques. J'aime ça prendre des risques dans la vie.
Oui, mais c'est le fun quand même. J'étais un peu surpris d'apprendre que tu skiais même dans tes vacances, mais il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Ça veut dire que tu es vraiment dans une branche qui te passionne, quelque chose que tu aimes faire à la base. Si tu n'étais pas skieur professionnel de calibre mondial, tu ferais du ski pareil.
Oui, probablement. J'aime le sport en général. T'sais, n'importe quel sport, que ce soit jouer au tennis, jouer au golf. Name it, j'aime ça jouer.
Il n'y a personne qui t'interdit de faire des sports en disant « faut pas que tu te blesses si, ». Mettons, imagine s'il avait fallu que tu te, je sais pas, foule une cheville ou que tu te blesses hier en skiant pour le plaisir, ça serait assez
Je pense que j'aime mieux me blesser en ski que n'importe quoi d'autre. Ça me ferait chier d'aller jouer au tennis puis genre me blesser en faisant de quoi d'autre, mais non, tu sais... C'est ça. J'ai pas de restrictions. Si je parle de mon équipe, quand je fais d'autres sports, ils sont que fais attention, mais j'ai pas de restrictions. Tu sais, en même temps.
Eh oui, t'as tout gagné déjà. Qu'est-ce que tu veux avoir de plus? T'as déjà tout gagné.
Est-ce que tu te fais tester comme genre hier, là, il fait beau, tu skis avec ta gang, tout ça, puis n'as-tu un qui arrive, puis hey, ah ouais, let's go, une petite course en bas.
Ça, pour de vrai, ça arrive, mais ils ont aucune chance. Que ça me stresse pas trop.
J'allais dire, quel épais va aller
mais
challenger.
C'est ça, mais tu vois, ça arrive, il y en
mais
a.
Ça ferait une bonne vidéo versus karma.
Mais des fois, ça arrive des jeunes qui sont comme, hey, je veux essayer, mais tu sais, j'y vais à 60 % juste pour dire que je croise la ligne avant eux.
Oui, c'est ça, pour leur donner de l'espoir.
Ah,
ouais.
Oh, j'étais pas si loin finalement.
Hey, Laurent.
Oui.
Ben, on est en Facebook Live.
Ben oui, on a déjà des commentaires.
Alors, les gens nous envoient des questions. Et puis là, ben, c'est une question pour Michael. Là. Je sais que ça peut être surprenant, mais...
Les bras m'en tombent.
C'est Phil de Thrill qui nous demande... C'est un vrai commentaire, là. À part le ski comme passe-temps, c'est quoi ta deuxième passion? Puis est-ce que tu en aurais fait une carrière?
Ah, j'ai beaucoup de passion. Comme j'ai dit, j'adore le sport en général. Fait que... Tu sais, quand j'étais jeune, pour de vrai, mon premier rêve, c'était de jouer au baseball... professionnel. Quand j'étais jeune, tu sais, avec les expos, j'ai été bad boy pour les expos de Montréal.
Ah, oh, je l'aime encore plus.
Ouais. Puis moi, à base, mon premier rêve, je me souviens, j'avais dit à mes parents, tu sais, je voulais jouer pour les Mariners de Seattle parce que dans le temps, il y avait des bons joueurs là-bas. Ken Griffey, A-Rod, tout ça. Puis ouais, finalement, ça a été en ski. Mais ouais, c'est sûr que si j'étais pas skieur, j'aurais essayé d'avoir une carrière dans le sport, mais ailleurs, tu sais, dans un autre sport.
On a souvent l'image des athlètes professionnels, des athlètes qui font ça dans la vie, qu'ils ne font que ça depuis leur tendre enfance et qui connaissent presque pas la vie. Est-ce que tu t'es senti à un moment donné comme ça dans ta vie? Coudon, y a-tu d'autres choses dans le monde que des montagnes puis du ski puis...
Non, je pense que le plus important, c'est de garder une belle équilibre. Tu sais, moi, j'étais encore tout ami avec mes chums du secondaire. Puis j'ai gardé comme mon noyau qui fait que quand je reviens, tu sais, les gars, ils m'ont connu sans nécessairement être Michael, le skieur. Puis ça fait que quand je reviens, oui, ils ont des questions sur le ski, mais tu sais, c'est moi qu'il faut qu'ils catch up sur les histoires. Tu sais, c'est sûr que... Tu sais, début vingtaine, tu sais, j'étais comme dans mon monde à moi, tu sais, genre, je voyage, puis je fais du ski, puis tu sais, c'est un peu genre ce que je vois, mais en même temps, avec mes amis, c'est ils m'ont gardé un bel équilibre dans la vie qui font que...
T'as jamais senti que ça changeait quelque chose dans tes relations avec tes chums?
Non, 100%. Puis, tu sais, non plus avec le succès que j'ai eu, tu sais, je pense que je suis resté la même personne. Tu sais, j'étais pas le skieur, je pense que je serais la même personne. Je pense que je suis resté humainement là. C'est ça l'important aussi.
Là, en ce moment, tu es en vacances, entre guillemets.
Ouais.
Et tu recommences très bientôt, là, je pense.
Ben, ouais, normalement, mon équipe là, est dans l'Ouest canadien, à Whistler, mais moi, j'avais besoin d'un petit break. Je recommence au gym. Fait que,
tu voulais absolument faire l'épisode d'aujourd'hui avec
ouais,
nous?
Ouais, c'est ça, je voulais être là, live. mais ouais, non, je vais m'entraîner au gym un peu, prendre du temps pour moi, je vais faire des vacances avec ma copine un peu. Puis tranquillement, je pense que je vais recommencer à skier en juillet. Fin juin, début juillet, puis après ça, on va aller en Europe probablement fin août, début septembre. Puis après ça, c'est ça, les Coupes du Monde vont arriver. Fait que...
Puis moi, j'étais surpris d'apprendre que tu as 29 ans.
29, ouais.
Moi, dans ma tête, t'étais un kid.
Ouais, j'ai encore l'air d'un kid.
Ben oui, mais t'as l'air peut-être, oui, t'as l'air peut-être plus jeune que 29 ans. Mais donc, la carrière à 29 ans, c'est un âge avancé dans le sport que tu pratiques.
Ouais, ben regarde, présentement, sur le circuit de la Coupe du Monde, on est 60 gars. C'est moi qui ai le plus d'expérience. J'ai le plus de okay. départ. Je suis considéré comme un vieux. Parce que je pense que je suis dans le top 3 ou top 4 des plus vieux skieurs sur le circuit.
Commences-tu à avoir des jeunes skieurs qui disent « Moi, j'ai commencé quand je t'ai vu skier, puis c'est ça qui m'a donné le goût? »
Ben, ouais. Ben, c'est drôle. T'es peut-être pas assez vieux pour ça. J'ai fini deuxième aux Jeux Olympiques, puis le gars qui a gagné, j'étais son idole. T'sais, en grandissant, lui, il m'a regardé à la télé, puis il était comme « Je veux être comme Mick. » Ça fait drôle à dire, quand même. Puis il est champion olympique aujourd'hui, mais ouais, il y en a beaucoup que... Je me souviens où qu'ils arrivent, puis ils montrent des photos de moi quand j'avais 18, 19, 20 ans, avec eux qui sont des petits-enfants, puis là, ils sont sur le circuit de la Coupe du Monde, puis ils performent super bien. Fait que, ouais, c'est sûr, ça me fait pas rajeunir. Mais en même temps, je me sens encore comme un gars de 20 ans, puis c'est ça l'important, tu sais.
T'as toujours autant de fun, t'aimes toujours ça.
Ouais.
Puis j'imagine le fait qu'on parlait un peu avant l'enregistrement de ta future retraite, qui est quand même bientôt. Là, tu parlais, toi, de quoi? 4 ans encore?
Oui, au moins 4 ans.
J'imagine que ça fait que tu veux profiter des dernières années au maximum. T'es pas blasé.
Ouais, mais... tu sais, je veux profiter, mais en même temps, je veux pas... tu sais, je suis rentré par la porte d'entrée, puis je vais ressortir par la porte d'entrée. Tu sais, je veux pas arrêter parce que je me fais tasser.
Tu veux finir en beauté?
Je veux finir en beauté, donc je vais continuer à m'entraîner fort, puis je veux rester au sommet pour les 4 prochaines années. Puis j'aimerais ça terminer. Tu sais, j'ai fini deuxième à mes premiers Jeux olympiques. J'ai gagné en 2018. Là, je viens de terminer deuxième. Donc, si la tendance se maintient, tu sais, si je peux finir avec une médaille d'or olympique, des globes de cristal, avoir toute ma famille en bas de la piste, des amis... Ça serait pour moi.
Ben c'est ça, j'allais dire. On te le souhaite tellement. Merci d'être avec nous, Michael. Tu restes avec nous, évidemment. Yes, On a encore besoin de toi. Alors aujourd'hui, on amorce une nouvelle chronique à l'émission avec un nouveau collaborateur. La bonne nouvelle, c'est que si ça chie, ben, c'est notre dernier balado. Fait que, il y a des maudites bonnes chances que la chronique ne revienne pas l'an prochain, tout simplement, et qu'elle sombre dans l'oubli. Alors, je vous présente... je vous représente le reportage de La Flèche de Toutbois qui couvre le sport amateur. Salut La Flèche.
Ouais, bonjour. Salut Laurent, salut tout le monde. Alors, qui dit roi de la montagne dit gravir les échelons et qui dit gravir les échelons dit sport de combat. En tout cas, je pense. Aujourd'hui, on va porter une attention particulière au karaté et plus particulièrement au kata. Alors, c'est quoi un kata? Eh bien, il me fera plaisir de vous faire vivre l'expérience avec mon premier topo descriptif. OK, fait que c'est parti. Le 19 décembre dernier, au dojo Martin Chase, nous avons eu droit à tout un exploit alors que le karatéka Mike Beaulieu a fait une démonstration de kata de toute beauté. Il faut dire que depuis les restrictions sanitaires, Beaulieu a dû faire une grande partie de sa préparation en solitaire à l'extérieur du dojo, ce qui représentait un défi supplémentaire. Beaulieu s'est donc présenté au dojo 15 minutes d'avance pour procéder à l'inspection de son kimono. Sa tenue était propre, bien repassée et aucun fil ne dépassait des écussons que sa copine Marie-Chantal y avait cousus. Marie-Chantal, une mannequin fitness décorée et professeure suppléante en secondaire, suivie par 13 000 abonnés sur son compte Instagram, était présente pour la démonstration de son homme. Beaulieu nous avait dit qu'elle était une source de motivation lors de ses entraînements et il ne se voyait pas présenter son kata sans elle comme spectatrice invitée. Avant l'exécution de son kata, Mike Beaulieu a fait un salut franc et viril devant le panel de jury composé de 3 membres de la FADOC et un étudiant au PI de l'école Jacques-Saint-Justin. Tous des ceintures noires avec une coupe de dames dorée au bout. Les juges, vêtus du traditionnel kimono d'apparat, donc nu-pieds, se sont installés sur des chaises pliantes, ont déposé leurs lunettes au bout de leur nez et ont donné le signal de départ à Mike Beaulieu. Le stress était élevé pour Mike puisque s'il échouait sa démonstration aujourd'hui, il allait devoir attendre 4 longues semaines avant sa prochaine chance de présenter son kata pour lequel il avait mis tant d'heures d'entraînement. En position d'attente, il s'est fermé les yeux pour visualiser chacun des mouvements qu'il allait performer ainsi que les adversaires qu'il allait faire semblant de vaincre devant nos yeux. Puis un cri strident s'est échappé de la bouche de Beaulieu, résonnant à travers tout le dojo. On aurait pu se demander « qu'est-ce qu'il fâche tant pour pousser un rugissement aussi agressif? » En fait, Beaulieu signalait par ce cri qu'il avait fini sa méditation et qu'il allait commencer son kata. Aussitôt, une immense pièce d'homme, ou du moins c'est ainsi qu'on se l'imagine, fonce à toute allure sur Beaulieu. Ce premier adversaire, plus grand que Beaulieu, agrippe ce dernier par la gorge et serre fort, fort pour essayer de lui faire perdre connaissance. Beaulieu, d'ailleurs, mime à merveille la douleur en crispant le menton pour qu'on voit dans nos têtes, comme lui, la force avec laquelle son ennemi lui serre le cou. Mais Beaulieu demeure courageux devant le mastodonte et fait semblant de lui donner un gros coup de coude en pleine poitrine à l'endroit de son plexus solaire. Pour illustrer la force de son coup de coude, il avait placé son autre main comme derrière le dos de son adversaire invisible. Son coude a fait clac dans sa main et on a compris que c'était un gros coup. On pense que Beaulieu imagine l'autre gars plié vers l'avant tellement il a mal. Beaulieu profite de l'occasion pour tourner sa main en position léopard, nommée après l'animal. Pliant juste un peu le bout de ses doigts, pouce inclus, il écrase sa paume contre le nez imaginaire de l'adversaire imaginaire. Beaulieu nous termine son kata avec un salut droit et fier. Il se mérite même un standing ovation un peu mou d'un des plus vieux juges qui a mal dans le dos depuis une couple d'années et qui en perd parfois des bouts. Faut dire qu'il a reçu une couple de commotions cérébrales dans sa carrière. Mais il va sans dire que Beaulieu l'a bien mérité sa ceinture jaune et il avait le quoi de se vanter à ses collègues à l'entrepôt la semaine suivante.
Merci beaucoup! La flèche de tout bois! Hey, c'est tout ça qu'on appelle un exercice de visualisation. Et tabarouette! Ça, on dit une image vaut mille mots, là, c'était vraiment mille mots, hein, pour une image. Sport, merci, bonsoir, et très fier d'accueillir dans son équipe un futur jeune retraité de la télévision, M. Denis Lévesque, mesdames, messieurs. Denis Lévesque, ben ouais, on applaudit, s'il vous plaît. Je vous propose d'écouter sa première entrevue avec nous.
Avec moi aujourd'hui, un moine d'une secte satanique de Boisbriand. Marié à une flûte de pan qui cultive sa propre rhubarbe.
Je suis pas là pour parler d'une secte sataniste de Boisbriand.
Ben écoutez, c'est ce que j'avais dans mes notes, là. C'est pas vraiment important, je les regarde jamais. Mais de quoi vous venez nous parler aujourd'hui? Vous avez tué votre cousin Beg? Vous avez rencontré Elvis dans un dépanneur de Lavaltrie?
Non, je suis ici pour présenter les différentes disciplines de ski, là. Premièrement, on retrouve...
Le ski acrobatique, par exemple, c'est du ski qu'on fait sur un fil de fer en jonglant, hein?
Non, c'est pas vraiment en lien avec un fil de fer ou de la jonglerie. C'est important d'être clair parce que chaque épreuve de ski peut être différente l'une de l'autre.
Non, il faut pas être puriste non plus, là. Ça reste qu'il y a des skis en jeu, là. Il doit pas y avoir une si grande différence entre l'épreuve de ski nautique et l'épreuve de ski doux, par exemple.
C'est deux choses qui n'ont rien à voir ensemble.
Mais d'ailleurs, pouvez-vous me dire, c'est quoi l'épreuve olympique du ski doux, là?
Il n'y a pas d'épreuve de ski-doo aux Olympiques, M. Lévesque.
Ah bon? Parce que dans mes archives, là, je vois qu'il y a déjà eu un modèle de motoneige qui s'appelait Olympique de la marque ski-doo. Êtes-vous en train de nous dire que Joseph Armand Bombardier nous a menti toutes ces années-là?
Hein? J'ai vraiment pas dit ça, là.
Et c'est quoi ça, l'épreuve des bosses parallèles? Pourquoi on dit en parallèle? C'est parce que ça se fait dans l'anonymat, c'est interdit, c'est illicite, là. Est-ce qu'on est en train de parler ici d'un commerce des drogues dures? Hein? Parce que ça s'est déjà vu, hein? On m'a dit que Jean-Luc Brassard donnait pas sa place pour avaler trois de ville d'un coup.
Hein? Non, c'est parce que vous avez l'épreuve en parallèle, mais aussi vous avez l'épreuve en simple.
Bien, en simple, vous le dites vous-même, là, ça veut dire que c'est facile. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'être un athlète pour faire ça. Hein? Le nom dit, en simple, c'est pas compliqué. Hein?
Ah, c'est plus complexe que ça.
Non, mais si c'est complexe, pourquoi vous ne changez pas le nom de l'épreuve dans ce cas-là? Hein? Ça serait plus simple. Bien, pas simple, parce que l'épreuve est compliquée. Est-ce que je suis en train de faire du Raymond DeVos, moi, là? Non?
C'est-à-dire que...
On le voit, là, c'est vous qui le dites. Le monde du ski semble dirigé par la mafia et les bandits. Là. C'est rempli de scandales. Hein? Ce qu'on appelle une descente de ski, c'est quand les policiers débarquent dans un party de skieurs qui ont trop fait de poudreuse.
Hein? Non, M. Lévesque, c'est...
Est-ce que les compétitions de ski sont controversées au point, là, à un point tel qu'on doit annuler les compétitions? Là?
Non, la seule raison pour annuler une compétition de ski, c'est parce qu'il n'y a pas de neige.
Donc, s'il n'y a pas de neige, je mettais ça sur la glace. Oh, excusez l'humour, c'est parce que je prends ma retraite à TVA et je vais faire un 5 minutes à l'open mic du bordel. Mais parlez-moi là, des grandes compétitions de ski, là, les Québécois se sont illustrés. Ça serait quoi? Cégep en spectacle, ma première place des arts, Géopardi?
Non, aux Jeux olympiques de Sochi en Chine, par exemple.
En Chine? Là, ce que vous me dites, c'est que des enfants de 5 ans ont fait les compétitions à votre place, c'est ça?
Non, c'était des athlètes d'ici.
Mais ce serait quoi la récompense la plus prestigieuse dans le monde du ski? Là?
La Coupe du monde? C'est sûr que c'est...
La Coupe du monde? Non, mais il n'y a pas vraiment de neige partout dans le monde. Là. En connaissez-vous des skieurs éthiopiens? Non, ben moi non plus. Si je ne connais pas ça, ça ne doit pas exister.
Non, c'est juste que...
C'est déjà tout le temps qu'on avait. Les meilleures stations au Québec là, pour faire du ski, ça serait quoi? Là?
Stoneham, Mont-Saint-Anne, Bromont...
Et en terminant, c'est quoi ta station préférée?
Bromont.
Ah, tu te mérites un T-shirt. Restez avec nous, on s'entretient après la pause avec un philatéliste, mais qui a aussi une passion pour les timbres de voix. À tout de suite.
Ah, merci, Denis.
Même la voix était bonne. De...
Oui, ouais, hein?
Merci. Mais c'était le vrai.
C'était le vrai.
Et, l'invité était une imitation de Michael Kingsbury.
Ouais. Appris de Stanley Hiller. Il y a 15 minutes. Je t'écoutais depuis le début, là, puis j'essayais de.
T'as bien eu ma voix aussi.
Eh bien, ce n'est pas la seule première, mesdames, messieurs. Oui, c'est jour de première aujourd'hui. Une nouvelle chronique avec Diane Lefrançois.
Ben oui. Merci, les gars. Merci de votre support. Donc, après 15 épisodes de Sport, merci, bonsoir, vous savez que je suis une vraie amateur de sport, hein? Une groupie même. Il y a une rumeur qui dit que je menace la gang de trépasser à chaque annonce qu'une personnalité sportive va participer au balado. Et puis, ben, si cette rumeur-là est vraie, vous pouvez imaginer mon degré de trépas quand j'ai su que Michael Kingsbury serait live presque dans ma face à la chic Place Versailles. Allô, allô, Michael. Alors, d'ailleurs, je suis agréablement surprise de voir que, je vais te vous voyer, que vous ne ressemblez pas du tout à un Playmobil. Parce que dans ma tête, à force de vous entraîner, je vous imaginais avec des petites mains en U, idéales pour tenir vos bâtons, puis avec une tête là, parfaitement moulée pour y clipper un casque. Donc, je suis agréablement surprise. Mais pour me préparer à vous rencontrer, je me suis rendu compte que mes connaissances en ski boss, ben, c'était plutôt limité. Comme tout le monde, hein, je vous ai vu aux Olympiques, mais je serais incapable de nommer une maudite figure, surtout à la vitesse à laquelle vous les exécutez. Donc, à ma décharge, je dois préciser que je ne viens pas d'une famille de skieurs. Hein. Je suis issue d'une famille modeste du plateau Mont-Royal, pré-envahissement français. On n'avait pas vraiment les moyens de fréquenter les centres de ski. Et pour être certaine de m'enlever toute envie de faire du ski, ma mère m'a fait écouter le film « L'autre versant de la montagne ». Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, et c'est sûrement…
C'est mon cas aussi.
Ben oui, hein, parce que c'est sûr, c'est un film de 1975. Vos parents n'avaient pas encore fait le « Spread Eagle », Michael, pour vous concevoir. Donc, en résumé, là, pour vous mettre dans le contexte, c'est l'histoire vraie, ça c'est très important, d'une championne de ski de 19 ans qui a fait une chute terrible et qui la rend paraplégique.
Ouch.
Alors, suite à l'accident, ben, elle se retrouve en fauteuil roulant à essayer de manger des chips tant bien que mal et puis elle est convaincue qu'elle ne rencontrera jamais l'amour. Donc, pour ma mère, le message était clair. Si une championne de ski peut se retrouver paralysée, imagine dans quel état tu vas te retrouver toi. Donc, c'est la fin de ma parenthèse traumatisante. Donc, pour aller au-delà de mes idées préconçues et pour être professionnelle, j'ai fait mes recherches. Et, évidemment, je sais qu'on ne peut pas toujours se fier à l'Internet, hein, parce que selon les informations que j'ai trouvées, Michael, vous auriez 3 médailles olympiques, remporté 74 médailles d'or en épreuve de Coupe du monde et gagné 10 gros bols de cristal. Donc, j'ai quand même un doute sur la fiabilité de mes sources parce que ça fait beaucoup pour un jeune homme de 29 ans. Et puis, en plus, je doute de la fiabilité parce qu'on dit un globe de cristal et 10 globes de cristaux. Donc, merci Laurent. Donc, alors, mais quand même, n'écoutant que ma rigueur, j'ai poursuivi mes recherches terminologiques sur le site très scientifique 20minutes.fr. Et puis, j'ai quand même eu une bonne surprise. J'ai constaté que je pratiquais moi-même certaines figures dans ma vie de tous les jours sans le savoir. C'est incroyable. Alors, premièrement, comme piétonne et automobiliste à Montréal, ben j'ai l'habitude des bosses. Ça semble une évidence. Et puis, deuxièmement, comme femme, depuis l'adolescence, je garde mes deux petits genoux bien collés quand je porte une jupe. Je porte pas des petits patchs de couleur vive sur mes genoux, mais j'ai compris que par sécurité, plus que par souci d'élégance, c'était beaucoup mieux ainsi. Après, j'ai appris qu'il y a des 360 et des 720 désaxés. Hein? Oui, c'est vrai. Oui. Ben, considérant mon background familial basé sur une éducation par la peur, désaxé, dans mon cas, c'est un mode de vie. Il y a aussi le saut périlleux. Selon la définition, ça dit que c'est un saut réalisé vers l'avant, l'arrière ou le côté. Moi, j'ai déjà fait tout ça. La seule différence avec vous, Michael, c'est que moi, je ne sais jamais à l'avance si ma chute va être vers l'avant, l'arrière ou le côté. Et bon, je ne voudrais pas me vanter trop, mais j'ai déjà fait un four-point landing.
Alors, un four-point landing?
Oui. Non, absolument. Vous doutez, mais.
Il a l'air sceptique, notre invité.
Ouais, ouais.
Four point landing. Okay,
ouais,
c'est
ouais,
bon.
Ouais, mais ouais. C'est parce que ça, c'est comme planté.
Ouais, c'est atterrir les deux pieds avec l'épaule.
Ben, c'est ça. Mais moi, la première et seule fois que j'ai fait du ski dans ma vie, j'ai fait un four point landing en tentant, et je dis bien en tentant de descendre du remont de pente. Ça s'est pas super bien passé, mais le dos qui travaillait en haut du chairlift a tellement ri qu'il m'a donné une note parfaite en m'aidant à me relever. Alors, j'ai eu ma leçon de défier ma mère et l'autre versant de la montagne. Et puis là, je vais profiter de votre présence fabuleuse. J'ai une question pour vous, Michael, parce que dans les définitions que je lisais, il y avait le terme « position », puis la définition, c'était « assiette de l'athlète pendant le saut ». Assiette de l'athlète pendant le saut.
Assiette de l'athlète pendant le saut, OK.
OK, bien, tu sais, moi, j'avoue que je suis un peu confuse et impressionnée parce que...
Bien, nous aussi, j'ai l'impression.
Moi, je suis très confus.
Non. Assiette.
C'est-tu une mauvaise traduction Google?
Bien, je sais
D'après
pas.
D'après moi, c'est une mauvaise traduction.
Parce que...
En anglais, assiette, c'est plate.
Ouais. Parce que moi, tu sais, je veux dire, je lis ça, puis tu sais, sauter avec une assiette, il faut le faire, là. Tu sais, personnellement, j'ai juste déjà dansé avec une assiette au mariage de ma cousine Suzanne, puis toute la bouffe est tombée à terre. Fait que ma tante Raymond, elle s'est cassée la gueule en glissant sur les petits pois, puis ça a fait un gros fret parce qu'elle maîtrisait pas bien la technique des petits genoux collés, ma tante Maman. Mais je suis désolée, Michael, il y a assez de comparaisons inadéquates. Je tiens à vous exprimer toute mon admiration. J'admire votre talent, votre dévouement et les sacrifices que vous faites pour pratiquer votre sport. Je comprends pas tout, mais quand je lis la définition d'un « lay full », c'est-à-dire un saut triple avec double vrille, chaque vrille sur les deuxième et troisième sauts, je suis étourdie juste à lire la définition sans reprendre mon respire. Donc, comme toutes vos performances, vous êtes spectaculaires, tout simplement. Puis si jamais, Michael, je vous ai fait peur avec l'histoire de l'autre versant de la montagne, sachez qu'il existe l'autre versant de la montagne, partie 2, où la skieuse paraplégique trouve enfin l'amour avec un jeune camionneur timide. Donc, tous les espoirs
merci,
sont permis.
Merci.
Hey, Laurent. On oui, a des cher. Super commentaires.
Voilà. Ben je t'écoute.
Ça va devenir un complément, en fait, d'information à la chronique... de Diane.
Oui, parfait.
Ben oui, ben c'est ça. Il y a Tom qui se demandait, là, en fait, puis je le lis comme ça, là. Tu pratiques un sport, ben c'est pour M. Kingsbury. Tu pratiques un sport d'hiver qui demande la neige, donc 2-3 mois par année maximum. Tu pratiques 3 ans, tu as un examen final à la 4e année aux Olympiques. Donc, la question de Tom, c'est est-ce que tu pratiques ce sport-là parce qu'au fond, tu es paresseux?
Ben, c'est le monde, il pense qu'on va juste aux Jeux olympiques puis on s'entraîne juste pour les Jeux olympiques, mais les Olympiques, c'est juste un stop aux 4 ans, tu sais. Ben, pour moi, chaque événement est aussi important que les Jeux olympiques. C'est juste que les médias, ils montent toute l'emphase ces Jeux olympiques. Mais tu sais, j'ai mon circuit de la Coupe du monde, puis j'ai plein d'événements qui sont importants. Donc, je dirais pas que je suis paresseux, en tout cas.
Mais c'est pas tout le monde qui pense ça, c'est juste Tom.
Tom, oui.
Puis Tom, on l'aïe.
Tom, on l'aime pas.
On l'aime pas.
Il y a une très mauvaise attitude, Tom.
Il y a Paul qui dit, je sais pas où il a pris ça, mais tu serais quelqu'un de très superstitieux. Donc, tu porterais souvent la même marque de combinaison ou tu aurais toujours le même bracelet. Là. Mais est-ce que tu l'as encore aujourd'hui? Puis si oui, c'est quoi ta superstition la plus weird?
Ben j'en avais une plus weird, c'est qu'en compétition, je portais tout le temps les mêmes boxers.
Puis... Mais tu les lavais entre
coups. Ouais, je les lavais, mais là, j'ai...
C'est quand même, faut le préciser pour les gens à la
maison.
Parce que
des fois, on course le samedi et le dimanche, puis avec le temps, ça me faisait chier d'avoir à laver après les courses quand ils sont le soir, puis là, tu laves juste une paire de boxers pour les remettre le lendemain. Fait que là, je me suis rendu compte, il y a une couple d'années, que j'étais capable de gagner avec d'autres boxers. Fait que j'ai plus cette superstition-là. Mais sinon, je porte le même T-shirt en compétition. Comme j'ai mes base layers que je change dépendamment de la température, mais j'ai un T-shirt que je porte à chaque compétition. C'est comme mon petit... c'est ça. Quand je le porte, c'est comme le game day, tu sais...
C'est quand même particulier quand tu fais partie de l'élite mondiale dans un sport et tu penses que la couleur de tes bobettes pourrait influencer le résultat final.
Pour de vrai, sérieusement, ouais. C'est stupide de même. Moi, si j'avais pas mes boxers, c'était comme qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse OK, là, pour de vrai, je peux. J'étais à un hôtel, je pouvais pas laver mes boxeurs le lendemain, fait que je m'en prends un autre, puis j'ai gagné, puis j'ai fait. Ah.
Mais est-ce que.
Non,
mais
je suis capable de gagner avec d'autres boxeurs.
Est-ce que tu étais nerveux, sachant que tu n'avais pas la bonne paire de boxeurs avant de descendre, non?
Non. Non, mais tu sais, comme un moment donné, il faut juste que. OK. Tu sais, en entraînement, je suis super bien, puis je porte n'importe quoi, tu sais. Mais en compétition, c'est comme. Faut que tu ailles. J'aime ça, tu sais, j'aime ça être préparé, tu sais, le matin quand je course dans ma chambre d'hôtel, c'est tout est plié, prêt, tu sais, je me lève puis tout est là.
Mais c'est comme un rituel.
Ouais, c'est comme ouais, c'est ça, c'est un rituel.
Il y avait un documentaire le fun qui s'appelait Dumbo où l'éléphant il vole puis dans sa trompe il tient une plume puis il se rend compte que c'est pas la plume qui le fait voler. Ah oui. Il est capable du seul.
Mais je suis pas sûr que c'est un documentaire.
C'est sur Disney non? Plus.
Écoute, je veux pas avoir l'air de remettre en question ton ce que tu nous dis là, mais écoute, moi je pense que ça mériterait d'être vérifié.
OK. Mais okay. Ben, je me suis fié sur beaucoup des. En tout cas.
Moi, là, je pense que je suis un peu perdu dans mon line-up d'émission. Là. Moi, ici, j'ai une chanson. Qui chante aujourd'hui?
OK, d'abord.
C'est toi qui vas chanter?
Ben non, moi puis Eric, évidemment.
Salut.
Écoute,
on a composé ça hier.
J'aimerais que tu nous présentes cette chanson qui porte un titre très poétique.
Je suis un albatros. Je pense que...
Ça dit tout.
C'est un hommage à Michael, évidemment.
Ben oui, et comme c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui,
okay.
C'est mieux d'être bon.
OK. Écoute, on va faire notre gros best, hein, Eric? Veux-tu que je me rapproche de toi pour que...
Non, ça va.
OK, parfait.
Je t'entends très bien.
OK.
Alors, maestro?
Maestro.
OK. Je suis un albatros. J'attaque d'un air féroce. Je brillant comme du cloche. Stigué mon sacerdoce. Je suis fort comme un colosse. Sur les pentes albinos. Je me sens comme dans le cosmos. Je crée le blanc chaos. D'un rhinocéros assis, c'est moi tout grosse aux Americanos. Je leur dis adios. Je suis la fée carabosse. Je pète les autres, c'est atroce. Je te tiens avec son os. Le number Inos.
OK, on va refaire.
Boss, boss, je suis le boss. Boss, boss, je suis le boss. Oh, oh. Boss, boss, je suis le boss. Je suis le boss des boss. King, king, king's parade. King, king, king's parade. Hey, king, king, king's parade. Je suis le king of the king.
Merci beaucoup. Merci, bonsoir.
Stanley Hilaire et Éric Desranleau. Je pense qu'on a trouvé la nouvelle musique d'entrée de Michael. Ça va jouer partout sa planète dans les quatre prochaines années. C'est ce qui conclut cet épisode de Sport. Merci, bonsoir. C'est ce qui conclut également la saison. Allez, un gros merci aux auteurs Stéphane Plante, Laurent Paquin, Diane Lefrançois, Alexandre Dubois, Benoît H. et Christian Vanasse. Merci à la réalisation, Benoît H. Direction musicale, M. Éric Desranleau. Aux réseaux sociaux, Dominique Gravel, recherchiste Alexandre Vadeboncoeur. À la technique, Émile Gervais et Jonathan Bellil. Un gros merci à nos partenaires, La Cage Brasserie Sportive, ici même, à la Place Versailles. Un remerciement également à Marie-Ève Allard et à Firebag. Montréal, mais surtout, mesdames, messieurs, un gros merci à notre invité du jour, M. Michael Kingsbury. Yeah! Merci évidemment à tous les auditeurs qui ont suivi cette belle aventure de sport. Merci, bonsoir. Mon nom est Laurent Paquin. Je vous souhaite un été extraordinaire et je souhaite à Michael que sa carrière se termine. J'en reviens pas qu'on parle de retraite à un si jeune âge, mais bref, que ça se termine en beauté. Merci encore une fois d'être venu nous voir. Bye tout le monde! On se revoit dans une autre saison de sport. Merci, bonsoir!
Yeah! Bravo tout le monde!
Merci, merci.